Bonjour chers auditeurs, ravi de vous retrouver aujourd'hui dans ce bel été, n'est-ce pas, en direct bien sûr, comme à l'accoutumée, enfin presque à l'accoutumée puisque la prochaine émission sera préenregistrée, mais partiellement préenregistrée. Mais là, nous sommes bien en direct dans le studio. Bonjour Eric.
Bonjour Didier, bonjour chers auditeurs. Oui, partiellement préenregistré, nous serons en direct le 4 août avec Mélisande, absolument.
Exactement. Alors, bel été j'espère, c'est le moment des festivals et nous allons dans cette émission donc recevoir le pianiste, un immense pianiste, Pierre Réac.
Oui. Pierre Réac.
Pour la sortie de son dernier disque sur l'intégrale des sonates de Beethoven, ça c'est un chef-d'œuvre, c'est le chef-d'œuvre de Beethoven bien évidemment, mais c'est aussi le chef-d'œuvre de Pierre Réac et c'est vraiment une somme indispensable à avoir, chers auditeurs, dans votre discothèque. Voilà, Eric nous dira ce qu'il pense du jeu pianistique de Pierre Réac.
C'est un jeu très impressionnant.
Sublime, et, voilà.
Oui.
Tout à fait sublime. Et puis Pierre Réac, je parlais de festival, est également directeur artistique d'un festival qui s'appelle Piano Pic. Alors Piano Pic, chers auditeurs, c'est la 9e édition de ce festival.
29e
édition
20,
de ce festival qui a lieu dans les Pyrénées, donc pour le pic du Midi d'Ossau, je crois, en tout cas au-dessus de Bagnères de Bigorre, et on l'évoquera peut-être avec Pierre Réac tout à l'heure. Pierre Réac est quand même ce pianiste, si les plus fidèles s'en souviendront, qui avait fait monter par hélicoptère un piano Steinway en haut du pic pour donner un concert sublime, d'ailleurs dans un paysage évidemment que vous imaginez avec toutes ces montagnes. Voilà. Donc, dans un instant, c'est Pierre Réac par téléphone que nous aurons et qui, avec qui nous parlerons de ce Beethoven et de ce programme
festival.
Du 29e festival Piano Pic, que vous retrouvez bien naturellement sur Internet pour avoir l'ensemble du... Mais c'est un programme tout à fait intéressant, vous verrez. Voilà. Et puis Mélisande nous rejoindra pour nous faire le deuxième épisode de Sanson François. Voilà, dont je vous avais dit qu'il y avait une dernière production, non pas récente, naturellement, puisque ce sont des reprises des enregistrements de Ravel, mais c'est tout à fait intéressant, nous en discuterons tout à l'heure. Alors, quelques annonces traditionnelles, puisqu'il y a des festivals, mais il y a aussi à Paris beaucoup de concerts, et on ne le dira jamais assez, chers auditeurs, c'est au concert que l'on goûte véritablement la musique.
Oui,
c'est au concert que l'on saisit la vibration musicale.
Alors, paradoxalement, il y a beaucoup de salles de concert qui prennent aussi leur congé d'été. Bien évidemment, les grands orchestres nationaux prennent leur congé d'été et les musiciens en profitent justement pour aller donner dans toute la France ou à l'étranger un grand nombre de concerts de qualité. Les festivals sur les côtes atlantiques, sur la Méditerranée, au bord de la mer, dans les villes thermales également, donc évidemment.
Le 4 août d'ailleurs, dans la prochaine émission, j'aurai le plaisir, c'est déjà dans la boîte, donc on peut le dire, d'évoquer le Festival de la Chaise-Dieu.
Absolument.
Qui est un immense festival, 60e anniversaire.
60e anniversaire, voilà. Cette année, voilà. 2026, oui. Autrement sur Paris, donc il y a beaucoup moins de concerts. Alors évidemment, l'association Musique et Patrimoine maintient tous ses programmes. Donc là, des concerts pratiquement tous les soirs en l'église Saint-Éphrem et puis en l'église de la Madeleine par l'Orchestre des Violons de France et la soprano Cécile Bénard. Donc là, les concerts continuent. Je dirais même à un rythme tout autant soutenu par rapport au restant de l'année. Donc, vous avez les programmes sur Internet. Je vous donne le téléphone de cette association Musique et Patrimoine. C'est le 01 42 50 96 18, 01 42 50 96 18, ou alors tout simplement sur AMP Concert au pluriel, tout lié, vous tombez sur le site de l'association et vous avez tous les programmes. Attention, méfiez-vous parce que les concerts n'ont pas toujours lieu aux mêmes heures en l'église Saint-Éphrem et en l'église de la Madeleine. Il y a une petite expérience pour mettre à 20h30 le concert en l'église de la Madeleine. On l'a fait samedi dernier. Et ça aura lieu également le samedi 25 juillet, mais on reviendra à 20h, qui est un horaire plus pratique pour tout le monde, y compris pour les étrangers qui ont l'habitude d'aller au concert très tôt. En Allemagne, les concerts, la majorité des concerts, c'est 18h, 18h30.
Absolument, oui,
voilà.
Oui.
Donc, il n'y a que chez nous, en France, on ne veut jamais faire comme tout le monde, sauf sur le plan européen, et sans doute bien sûr au sujet sur lequel nous ne reviendrons pas. On va avoir de l'urticaire. Donc, voilà. Donc, en ce qui concerne les concerts de la saison, vous avez peut-être quelque chose à rajouter ?
Oui, moi j'ai quelques concerts à vous indiquer, très proche de Paris, donc à Rueil-la-Gadelière, c'est dans le 28, donc oui. C'est proche de Paris, et le samedi 11 juillet à 18h, vous pourrez assister à un concert en hommage à François-André Philidor. Philidor est né à Dreux en 1726, donc c'est un... il est de la région, en quelque sorte, donc. Et c'est le duo Chantal et Gisèle Andragnan, en piano à quatre mains, qui donnera ce concert, donc, dans le cadre du château de la Gadelière. Château de la Gadelière, vous aurez tous les détails sur ce www.châteaudelagadelière, comme ça se prononce absolument, .com. Et donc, ce concert aura lieu à 18h, le 11 juillet, le
Philidor.
Samedi.
C'était un...
Philidor, François-André Philidor, né à Dreux en 1726, donc
1726,
c'est de la musique plutôt baroque, évidemment.
Oui, oui.
Mais là, c'est interprété au piano, hein, piano quatre mains.
Je m'excuse, mais vous voyez, je ne connaissais pas
ce musicien. Ah ben si, il a fait. Tous ces musiciens qui ont composé énormément de musique, alors aussi bien pour la chapelle à l'époque que pour les salons, en quelque
oui,
sorte.
Oui, d'accord.
Et on découvre, effectivement, l'organisme à Versailles a fait beaucoup pour la redécouverte de ces musiciens. Les bibliothèques sont pleines de manuscrits, qui sont pleines de musique qui n'ont été jouées qu'une fois, comme on le faisait
voilà,
à l'époque.
Voilà, la reprise
systématique des concerts, des mêmes œuvres, d'ailleurs, souvent... est assez récente, ça date du 19e siècle, quoi,
oui,
quasiment.
Oui, 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 oui,
mais
oui.
Avant, il n'y avait pas la télévision, il n'y avait pas la radio. La musique était forcément en direct. Et donc, les compositeurs, comme Jean-Sébastien Bach, qui composait une cantate pour à chaque dimanche, pratiquement. Et ces cantates n'étaient quasiment jamais reprises, puisque c'était dans un but très précis d'illustration de la liturgie du jour. Par conséquent, il n'y avait pas cette faculté discographique, évidemment, oui. Et cette faculté de reprise des œuvres, ça n'intéressait pas le public.
Aujourd'hui, voilà. On n'a pas besoin de contact dans les églises. C'est bien malheureux.
Alors, il y a donc ce concert du 11 juillet à 18h. Et puis après, je ne vais pas dérouler tout le programme, vous le trouverez sur Internet. Le 13 juillet à 18h, un concert Histoire de femmes. Alors là aussi, ce sont des concerts qui mettent en valeur... dans les festivals, c'est plus facile, qui mettent en valeur quasiment des programmations très particulières. Et aujourd'hui, on révèle, c'est l'air du temps sans doute, les compositrices qu'on avait un peu oubliées. Ici même, nous avions beaucoup fait pour Mel Bonis, pour des compositrices de grand talent d'ailleurs. Hein, rien à envier aux compositeurs mâles, si l'on peut dire.
Claudia nous a offert lundi soir une soirée musicale sur les compositrices.
Voilà, exactement.
Très bien,
alors,
très agréable.
Très bonne chose que l'on puisse réentendre toutes ces musiques. Et puis, toujours par le duo Chantal et Gisèle Andragnan, toujours en piano quatre mains, évocation slave avec beaucoup de musique de l'Est, naturellement, comme on dit à partir de chez nous. Ce sera le samedi 18 juillet à 18h. Toujours dans le cadre du château de la Gadelière. Il y a des concerts jusqu'au 22 août, toujours avec ce concert en hommage à François-André Philidor. Donc,
bien sûr,
que vous aurez plaisir, cher Eric, à vous y rendre pour découvrir Philidor.
Ce sont d'abord de très bonnes pianistes, toutes les deux, Gisèle et Chantal Andragnan, que j'ai eu l'occasion de rencontrer au Moulin d'Andé, et pour lequel je conserve un très bon souvenir de leur duo. Ça, c'est tout à fait.
Voilà,
elles sont très agréables.
11 juillet, 18 juillet et 22 août pour entendre ces deux pianistes, ces sœurs qui venaient très souvent dans le studio pour annoncer leur concert. Alors je sais que vous aviez à cœur, cher Eric, de faire un petit commentaire sur l'événement majeur, je ne parle pas de politique bien évidemment, l'événement majeur de ces derniers jours, à savoir 1er juillet.
1er juillet, s'est passé un événement avec le sacre de quatre nouveaux évêques à Écône, bien sûr, par la fraternité Saint-Pie-X. Donc, quatre prêtres sont maintenant évêques. Il s'agit de Mgr Schreiber, qui est un évêque originaire de Suisse, Mgr Goldad, qui est américain, USA,
américain, oui.
Voilà. Mgr Poincinet de Sivry, donc, qui lui est français, ainsi que Mgr Anapier, qui est également français. Donc, quatre prêtres sont maintenant évêques. Nous avons six évêques à la fraternité Saint-Pie-X. Alors, évidemment, nous ne sommes pas habitués, pour nous, les évêques ont un rôle hiérarchique, mais pas du tout dans le cas de la fraternité Saint-Pie-X, où, d'ailleurs, ce qui, je trouve ça très, très, très bien, il y a une hiérarchie, si vous voulez, spirituelle, puisqu'ils ont le pouvoir d'ordonner des prêtres,
voilà,
sacramentels, de donner le sacrement de la confirmation, etc., mais laissent diriger, je dirais, les aspects matériels, on va dire ça comme ça, par le supérieur qui est un prêtre, tout simplement. Moi, je trouve ça très beau, c'est un petit peu cette position où, en France, on voit parfois, on peut dire, quelques dérives de la part de certains évêques, d'abus de pouvoir qui vont même contre les bonnes raisons de la foi, quelque
oui,
part, qu'on ne peut pas comprendre.
Et parfois même contre le bon sens.
Et peut-être qu'on va aller jusque-là. Oui, on peut aller jusque-là. Donc, écoutez, nous avons quatre évêques. Alors, nous devons aussi souligner que s'il y a des séminaires conciliaires qui ne sont loin d'être remplis, nous réjouissons d'avoir eu 86, enfin l'Église conciliaire se réjouit d'avoir eu 86 ordinations cette année sur l'ensemble du territoire français, 86, mais combien y a-t-il de prêtres qui vont dépasser l'âge de 75 ans aujourd'hui?
Voilà.
Beaucoup plus, je crois qu'on peut les multiplier par 10.
Par centaines.
Voilà, d'une part. Par ailleurs, les séminaires traditionnalistes sont pleins.
Oui.
Celui de Bourgogne, de la fraternité Saint-Pie-X, a encore augmenté son nombre de postulants, n'est-ce pas ? Ils sont pleins. Il y a eu un grand nombre d'ordinations à Écône. Donc, nous voyons le constat. Là, nous voyons le constat. De toute façon, gardons confiance. Le renouveau spirituel va se faire par la tradition. Alors, patience, gardons la foi. Moi, je vais beaucoup à la messe traditionnelle. Je ne rejette pas la messe conciliaire. Il m'arrive d'y aller, il n'y a pas de problème. Et la seule chose qui est très dérangeante, c'est cette chape de plomb qu'on nous met. À partir du moment où on va à une messe traditionnelle, nous sommes rejetés.
Oui.
Et on n'admet pas. Eh ben non, je trouve ça très dommage.
Alors, c'est d'autant plus vrai que j'ai eu à plusieurs reprises le témoignage de jeunes qui se destinaient au plus grand service, naturellement, donc à la prêtrise, et qui m'ont fait à plusieurs reprises des réflexions, j'allais dire très, un peu terre à terre, mais quand on se destine à la vocation, c'est évidemment un engagement total de la personne. Et je me souviens d'une réflexion d'un des jeunes qui était passé, qui avait fait une année de propédeutique dans un séminaire conciliaire, disons, et qui était passé, si l'on peut s'exprimer ainsi, à la tradition, en disant, vous comprenez, j'avais l'impression qu'on me proposait de faire ma vie comme animateur socio-culturel. Et ça n'est pas ce que je recherchais. Je recherchais un engagement, certes total, mais un engagement beaucoup plus spirituel, un engagement beaucoup plus destiné à sauver les âmes, tout simplement. Et c'est dans la tradition qu'il l'a retrouvé. Alors, il ne faut pas généraliser, bien évidemment, mais c'est une réflexion qui fait quand même, qui permet de réfléchir un petit peu sur la vocation véritablement de ces jeunes qui vont s'engager sur une voie extrêmement difficile, mais une voie magnifique, évidemment, une voie prodigieuse, enfin,
bien sûr,
spirituellement parlant, enfin, etc., mais qui est une voie très difficile, et par conséquent, il y a cet engagement total d'une vocation, et ça, il faut le servir, il faut la transmettre, il faut leur donner.
Moi, tous ces prêtres issus des séminaires traditionnels ou de ces postulants qui rentrent au séminaire, moi, je les admire, et avoir le courage de porter la soutane et de dire la messe traditionnelle, et puis de vivre ainsi, c'est quand même un acte de grand courage. Mais vous savez, nous faisons partie, Didier, de cette génération, quand nous avons fait notre communion solennelle, notre profession de foi, nos parents nous offraient le missel fédère ou le missel traditionnel. Donc, mon missel traditionnel, je le lis très souvent. Et j'ai fait la comparaison des messes conciliaires et des messes traditionnelles. Mais nous sommes dans un autre monde.
Mais oui, bien sûr.
Mais le nombre de prières qui ont été enlevées, n'est-ce pas, primordiales, demandez, vous recevrez. Si on n'invoque pas le sacrificateur, si on n'invoque pas, pourquoi viendrait-il ?
Vous savez, j'ai fait partie pendant des années de l'association des Amis de l'abbé Carmignac, qui travaillait sur les traductions, d'une autre paire en particulier.
Oui. Ah,
c'était
oui.
Un travail absolument extraordinaire de l'abbé Carmignac, qui finalement, au bout de 30 ans, a été reconnu, puisque les traductions d'une autre paire ont été modifiées, dans le bon sens d'ailleurs, à ce moment-là. Mais effectivement, il y a là pas un manquement, mais il y a le Concilium Patris, enfin, etc., qui a posé beaucoup de problèmes. Et il y avait, de toute évidence, à ce moment-là, un glissement, en quelque sorte, qui était très préjudiciable. Lex orandi, lex credendi, on le sait bien. Et par conséquent, les gens de la traduction ont réagi de cette façon, de façon à conserver, de transmettre la vraie foi aux fidèles. Et ça me semble très important. Bref. Évidemment, les polémiques ne vont pas cesser, c'est
fidèles,
évident.
La première chose, c'est la Sainte Messe. C'est
ça, bien sûr.
Parce que l'infidèle, comme vous et moi, nous assistons à la messe le dimanche, bien sûr, mais c'est la première chose qui nous touche.
Oui.
Donc c'est l'entrée, vraiment. Après ça, évidemment, on pourrait rétorquer. Il y a beaucoup de prêtres conciliaires qui sont des hommes formidables, qui font un
bien
travail
sûr.
Formidable. Il n'y a pas de problème, il ne faut pas non plus...
Mais, jeter l'eau du bain.
Voilà.
Le bébé.
Voilà. Non.
Voilà.
Bien.
Écoutez, voilà, bon, quelques commentaires. Voilà. Alors, les polémiques, eh bien, suivons les réactions des uns et des autres.
Ça va mettre quelques années, mais allez voir qu'on reviendra à la tradition.
Bon, un jour ou l'autre.
On y reviendra.
Je ne sais plus quel évêque conciliaire me disait qu'un jour, Mgr Lefebvre serait canonisé comme l'a été saint Athanase.
Ah.
Après avoir été brûlé vif. Par l'Église.
Comme quoi.
Donc, comme vous dites, ne perdons pas espoir. Alors, revenons à la musique, si vous le voulez bien, quand même, parce que nous sommes dans le Libre Journal de la Culture et de la Musique, et là, c'est un événement. Le pianiste Pierre Réac publie le dernier tome, en quelque sorte, de l'intégrale des sonates de Beethoven, et nous allons donc discuter... savamment, j'espère, avec Pierre Réac.
Avec grand plaisir.
Car ce disque est une merveille, comme les précédents, naturellement. L'ensemble de cette production des sonates de Beethoven est une merveille et doit évidemment faire partie de la discothèque de tout honnête homme. Pierre Réac, êtes-vous à l'antenne ?
Allô ? Oui, bonjour.
Ah, bonjour.
Et merci de ce que vous venez de dire qui me touche beaucoup.
Ah, mais écoutez, c'est très sincère. J'ai écouté plusieurs fois cette dernière production. J'avais, alors je ne vais pas vous raconter ma vie, c'est pas le lieu. j'avais d'autres disques de vous, et figurez-vous que parmi ces sonates de Beethoven, ma maison ayant entièrement brûlé, j'ai perdu toute ma collection. Donc, j'ai été d'autant plus touché par mon ami Laurent Worms qui m'a envoyé votre dernier disque, et c'est une merveille. Alors, Pierre Réac, quel a été... Je sais que vous êtes un passionné, un spécialiste, le terme est toujours un peu galvaudé, un spécialiste de Beethoven, mais quelle a été, j'allais presque dire, votre intention première lorsque vous avez commencé cette intégrale des sonates de Beethoven, ce qui est un monument de la musique?
Oui. Vous savez, votre question est évidemment très, très belle et très, très, très importante pour moi, parce que c'était le projet de ma vie d'enregistrer un jour les 32 sonates de Beethoven, qui sont évidemment on appelle ça la Bible du pianiste, oui. D'autres disent que c'est l'Everest du piano. Bon, ce sont des mots un peu qui ne signifient pas grand-chose. Mais enfin, si, c'est sûr que c'est quelque chose de très important, parce que depuis que j'étais petit, j'étais vraiment fasciné par la personnalité de Beethoven. Et c'est venu aussi du fait que mes parents, qui étaient mélomanes, ils n'étaient pas du tout musiciens professionnels, mais ils adoraient la musique et ils m'ont amené, quand j'avais 5 ans, c'était le tout premier concert auquel j'ai assisté, c'était un concert de Wilhelm Kempff, le très grand pianiste allemand, oui. Qui est resté, et plus que vous connaissez les sonates de Beethoven, vous savez que c'est un des plus grands interprètes de ce compositeur et d'autres d'ailleurs. Alors j'ai été tellement ébloui par ce concert, j'étais très très jeune évidemment, qu'après je suis allé à tous les concerts de Kempff, j'ai entendu évidemment d'autres très grands artistes, mais le Beethoven de Kempff m'avait marqué, je peux dire, dans toute mon enfance et ma jeunesse, et davantage affirmé par d'autres très grands artistes. J'ai eu un très grand professeur au conservatoire, qui était Yvonne Lefebvre, qui était une très grande beethovenienne, et après Maria Curcio, qui était l'élève de Schnabel, et jusqu'à Paul Badura-Skoda, et même Arthur Rubinstein, que j'ai bien connu, oui. Et qui m'a donné beaucoup de conseils entre les années 1975 et 79, chez lui, parce qu'il habitait Paris, quand il était à Paris. Donc, si vous voulez, cette voie était un peu tracée, et parce que je crois qu'on est forcément marqué par « tout ne vient pas par hasard ». Alors j'étais déjà dans une certaine direction, mais il se fait que la personnalité de Beethoven est tellement riche, tellement à la fois moderne, tellement d'avant-garde dans sa démarche, notamment sur le plan humain, que j'ai pu continuer. J'ai eu plaisir de plus en plus, plus le temps passait, plus je me sentais proche et je dirais vraiment amoureux de tout ce monde beethovenien. Qui continue d'ailleurs à me fasciner. Alors, plus les années passent, plus je suis fasciné par Beethoven, c'est sûr.
Alors c'est très important, vous parlez de l'humanité de Beethoven, et dans votre interprétation, dans l'ensemble de ses sonates, c'est précisément ce qui m'a le plus frappé. Parce que vous rappelez évidemment vos maîtres, ceux qui vous ont transmis cet amour de Beethoven, etc., qui vous ont sans doute transmis tous les conseils, la technique, etc. Ça, c'est une chose. Mais Beethoven est un tel univers que pour donner une interprétation à la fois originale mais juste de l'œuvre de Beethoven, il faut avoir une intimité, j'allais presque dire, avec la personne de Beethoven. Et alors, ce qui est extraordinaire, c'est que ça peut passer par les biographies, enfin, par la vie de Beethoven, mais dans le cas de Beethoven, ça passe plus particulièrement par sa musique, précisément. Et c'est c'est véritablement ce que l'on ressent dans votre interprétation.
Mais je suis très heureux de cela, parce que c'est ce que j'ai recherché, et c'est sûr qu'il y a certaines sonates, mais pas seulement les sonates. Bon, moi, je suis pianiste, je joue les sonates pour piano, mais évidemment, toute musique de chambre, je pense notamment aux quatuors et même aux œuvres orchestrales, témoigne de cette générosité humaine, de cette bonté, finalement.
Oui.
Et pas seulement parce qu'il était amené à écrire l'hymne à la joie dans la 9e symphonie, mais c'est parce que c'était quelqu'un de foncièrement bon, et ce qui est fascinant, à mon avis, dans la personnalité du personnage de Beethoven, c'est que cette bonté humaine et cette générosité avaient besoin souvent de dire non, et d'être peut-être, de le faire même avec un peu, je ne dis pas de violence, mais de fermeté, parce que je trouve qu'il y a toujours une très grande fermeté dans la musique de Beethoven. Il n'y a jamais d'alanguissement, si
voilà.
Vous voulez.
Une gravité,
et,
d'ailleurs.
Au sens romantique du terme. Et même gravité, c'est tout à fait le mot, absolument, gravité. Et cette gravité, chez Beethoven, ajoute à ce sentiment de bonté surhumaine qu'il et non seulement qu'il la sentait pour les autres, mais il n'était pas content quand les autres ne suivaient pas cet exemple, parce qu'il était très exigeant. Alors souvent, il avait évidemment un caractère très très difficile, il était souvent dans, bon, évidemment, la surdité et toute la vie qu'il a eue n'ont rien arrangé. Mais je veux dire que, justement, dans cette solitude beethovenienne, que d'ailleurs, sous un autre plan, Franz Liszt a aussi ressenti, mais d'une autre manière, parce que Liszt, c'était une sorte de solitude, je dirais, dans la gratitude de Dieu. Mm-hmm. Il y a une œuvre de Liszt qui s'appelle « Bénédiction de Dieu dans la solitude », qui, à mon avis, est une des plus belles œuvres qu'il a écrites pour le piano. Et d'ailleurs, Liszt adorait Beethoven.
Bien sûr.
Et il ne faut pas oublier que Liszt a été présenté à Beethoven par Czerny, le fameux Czerny que tous les étudiants pianistes jouent les études. Alors Czerny était l'élève de Beethoven et a présenté Liszt qui était son élève, à lui Czerny, et Beethoven a écouté Liszt et paraît-il a été très impressionné par le talent du jeune Liszt. Et c'est pour dire qu'il y avait, Beethoven transmettait cette bonté, et vous avez raison ce que vous dites, et je suis très touché que vous l'ayez ressenti dans mes interprétations, il y a certaines sonates, la plupart, mais en tout cas surtout, je pense par exemple à l'Andante de la Sonata Passionata ou la Sonate opus 109 et même surtout l'opus 110, où dès le départ on sent une effusion, une sorte de bonté et de ce besoin d'aider son prochain.
Oui.
Et c'est quelque chose d'ailleurs qui peut aller dans un sens peut-être pas religieux, mais en tout cas profondément philosophique et spirituel.
Quasi, voilà, et exactement. En tout cas spirituel, ça. Sans aucun doute. Alors, y avait-il dans votre conception de cette intégrale, parce que une intégrale, c'est quand même tenter de maîtriser l'ensemble de l'œuvre, en tout cas en ce qui concerne les sonates, y avait-il, j'allais dire, un plan préconçu de l'ordre dans lequel vous souhaitiez faire découvrir ces sonates ?
Oui, alors ça, c'est aussi une belle question. Je vais vous dire une chose qui va à la fois vous intéresser, vous amuser, enfin bien que ce n'était pas drôle. C'était en pleine pandémie. Bon, je jouais les sonates de Beethoven, peut-être pas toutes, mais je les jouais, je les ai beaucoup enseignées. Elles étaient près de moi depuis mon enfance, comme je vous l'ai dit.
Oui.
Mais pendant la pandémie, au début de la pandémie, je me rappelle en 2020, justement le fameux 150e anniversaire où tous les concerts en hommage à Beethoven, parce que c'était le 150e anniversaire de sa naissance, avaient été annulés.
Oui.
Je me suis retrouvé tout seul, tous les concerts annulés, plus rien, le conservatoire où j'enseignais était fermé, on faisait les cours par Internet, et je me suis jeté, je peux dire, il n'y avait pas le choix, parce qu'autrement c'était la dépression qui commençait, parce que tout était annulé, et je me dis, voilà, il n'y a plus de projet, et j'ai commencé à travailler l'enregistrement de ces sonates, enfin pour l'enregistrement. Et alors j'ai commencé par les trois opus 31, parce que ces trois opus 31, vous savez que je suis en train d'écrire un livre sur l'interprétation des sonates, et dans ce livre, je l'explique, ces trois opus 31, dont la deuxième qui s'appelle La Tempête, qui a été appelée La Tempête, c'est
baptisé.
Pas de Beethoven, enfin, Beethoven avait fait une allusion à La Tempête de Shakespeare, et donc ces trois sonates sont un peu une sorte pour moi de pôle, je dirais, d'épicentre de ces 32 sonates. Elles sont à peu près à la moitié, ce sont les sonates 16, 17, 18 parmi les 32. Et j'ai commencé avec ces trois sonates, et après je voulais, parce que c'était un coffret de deux CD, faire tout de suite les trois dernières, qui sont les trois pôles, un peu une sorte de testament pianistique de Beethoven. Alors c'est allé comme ça, et après, il n'y a pas eu, pour répondre à votre question, vraiment d'ordre voulu, mais elles sont venues, j'avais envie de jouer la Passionata, j'ai eu envie de jouer la sonate qu'on appelle Claire de Lune, j'ai eu envie, il y a certaines sonates qui sont venues, donc on a fait un nouveau coffret, et après, à nouveau, deux ans après, il y avait encore un coffret avec cette fois-ci l'opus 101, la sonate numéro 2. Il faut dire aussi, je vous le dis en toute humilité, il y avait certaines sonates qui sont quand même très difficiles où je les ai volontairement un peu reculées dans le planning parce qu'il fallait quand même le temps de les approfondir un maximum. Et donc le tout dernier coffret qui vient de sortir, voilà, c'est la conclusion. Alors maintenant vous avez les 32, c'est
voilà.
Sûr. Mais je ne les ai pas faites dans l'ordre et je m'empresse de dire qu'aujourd'hui, La plupart des pianistes, il n'y a pas tellement de pianistes qui font l'intégrale des sonates de Beethoven, mais souvent, quand ils les jouent en concert, ils les jouent sur 6 mois, voire même 1 an.
Oui,
par
oui,
exemple,
oui.
Baron Boyle, qui est un oui, immense oui, interprète de Beethoven, l'a fait. Tandis que Wilhelm Kempff, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était absolument historique. Il les faisait sur 15 jours, dans l'ordre chronologique, avec un concert tous les 2 soirs
oui,
à la salle Pleyel.
Oui, tout à fait.
Et c'était phénoménal, et plus personne ne fait ça aujourd'hui, d'être capable de jouer les 32 sonates sur 2 semaines.
De mémoire, c'est absolument phénoménal. De mémoire, oui.
Oui, oui, oui.
Et de mémoire, bien sûr.
Et de mémoire. Alors, donc, on sent bien cette volonté de rentrer dans le... j'allais dire, dans l'âme beethovenienne, en quelque sorte, à travers ses sonates. Est-ce que pour vous, cette interprétation maintenant est figée ? Parce que finalement, lorsqu'on fait une intégrale comme ça, c'est un peu comme une photo, si vous voulez, qui peut être datée. Je prends la photo, là, à l'instant, dans 1 an, dans 2 ans, les lieux auront peut-être changé, enfin, etc. Et pour l'interprétation musicale, on est un peu dans ce cas-là. Combien d'artistes...
Mais c'est ça, à la fois la merveille de l'enregistrement, mais aussi le drame de l'enregistrement.
Voilà.
Parce que, voilà, c'est que, comme vous dites, c'est une photo, peut-être pas figée, mais en tout cas qui a été prise à un instant T.
Oui.
Et je vais vous dire, j'ai peur quelquefois d'écouter mes disques, et même les disques anciens que j'avais fait dans le temps, parce que j'ai évolué beaucoup. D'ailleurs, je suis sûr que certaines sonates que j'ai enregistrées, parmi les premières dont je vous parlais au début de la période de la pandémie, quand j'ai commencé l'enregistrement, aujourd'hui, il y aurait sans doute un changement. Mais ça, c'est la vie, on n'y peut rien. Nous sommes tous comme ça, nous évoluons et c'est tant mieux. Mais rien n'est figé. C'est-à-dire, d'ailleurs, j'adore écouter des interprétations d'autres pianistes parce qu'il y a toujours quelque chose de très, très intéressant. C'est inépuisable, le langage musical.
Mais bien sûr.
C'est plutôt, pour répondre à votre question, c'est que je suis heureux d'avoir eu, j'ai quand même mon âge maintenant, et puis tout ce qui s'est passé dans ma vie, d'avoir gardé le gouvernail dans la bonne direction, et d'avoir réussi à faire ce projet qui était le projet de ma vie. Donc j'ai fait cette intégrale des 32 sonates. Il paraît que depuis Alfred Cortot en France, je ne suis que le 8e, donc il n'y en a pas beaucoup.
Oui, c'est ce que j'ai lu aussi.
Et voilà, je l'ai fait. Mais tout serait à refaire, et si j'avais la possibilité, bien sûr, dans quelques années, je voudrais tout de suite les refaire. D'ailleurs, je me rends compte, en écrivant maintenant mon livre sur l'interprétation, qu'il y a des tas de choses que j'aurais pu faire mieux ou approfondir au moment de l'enregistrement et qui me serviront si je les rejoue en concert.
Oui.
Ça,
oui,
c'est certain.
C'est...
On n'a pas fini de... Vous savez, c'est inépuisable et heureusement,
voilà,
parce qu'autrement, ça serait arrêté déjà depuis longtemps.
Beethoven voilà,
sera joué pendant toute l'humanité durera, je pense qu'on jouera les sonates de Beethoven.
Exact. Éric.
Oui, je voulais dire, ces 32 sonates, évidemment, se présentent un petit peu par ordre chronologique, on peut le dire comme cela, plus ou moins.
Oui.
Mais il y a une interférence terrible parce que Beethoven est un homme qui écrivait, qui revenait, qui raturait. Alors quand je dis raturait, c'est-à-dire reprenait vraiment ses écrits, comme un écrivain peut changer ses formules, etc. Ce qui était le cas de Beethoven. Et d'autant plus que il y avait des thèmes qui portaient en lui et qui ne trouvaient pas aboutissement immédiatement. Je prends un exemple très concret, l'hymne à la joie. Il paraît qu'il l'aurait porté en lui 19 ans avant de le mettre en musique, on va dire ça.
Mais vous savez, la fantaisie, il y a une œuvre qui est la fantaisie, je l'ai jouée, elle est magnifique d'ailleurs, en do majeur. La fantaisie chorale, où il y a le thème de l'hymne à la joie qui n'est pas encore tout à fait celui qui sera dans la symphonie, mais c'est déjà le thème.
Absolument, tout à fait.
Et Beethoven nous fait assister, par exemple, dans la Hammerklavier, ou même l'opus 110, et on assiste aux transformations qu'il fait devant nous, et c'est marqué sur la partition, on le joue. Le thème qui se meut, c'est pour ça qu'il était tellement exceptionnel dans l'art de la variation, parce que pour lui, quelque chose avait vocation à se métamorphoser tout de suite. Il n'y avait rien d'arrêté, si vous voulez. Et c'est certain qu'il avait dans ses carnets de conversation, aujourd'hui, on ferait sans doute qu'il aurait pu le faire avec un iPhone. Mais là, il l'avait pas. Alors, il marquait une idée qu'il avait sur un carnet, et peut-être que le soir, en arrivant chez lui, après s'être promené, je peux imaginer, dans la campagne viennoise, eh bien, il reprenait ce thème, il avait eu une sorte d'apparition de ce thème, et il le travaillait. C'est pas comme Mozart ou Chopin qui avait, où il y avait une sorte d'apparition parfaite tout de suite.
Oui.
Là, Beethoven était tout le temps un côté un peu ruminant, finalement, de transformation. Et c'est pour ça qu'il est si grand, parce que il y a quelque chose de tellement humain dans la démarche de Beethoven, de travailler, de répéter, de vouloir toujours aller plus loin. Rien n'est jamais accompli avec Beethoven. C'est ça qu'on ressent, je trouve, dans sa musique.
On le sent dans ses montées harmoniques, n'est-ce pas? On dit, on va atteindre le ciel, et puis d'un seul coup, ça y est, on retombe.
Pierre Réac, vous le dites d'ailleurs dans un de vos commentaires, enfin dans la pochette du disque là, vous dites, lorsqu'il y a un crescendo assez puissant suivi d'un piano brutal, psychologiquement, ça signifie quelque chose.
Signifie que le crescendo n'a pas pu aboutir, et que c'est quelque chose d'autre qui renaît derrière.
Exactement. Alors c'est tout à fait vrai, parce que dans le cas de Beethoven, quand on voit dans ses quatuors, par exemple, la façon dont il traite musicalement les fêtes qu'il entendait sur le Prater de Vienne, enfin, etc. Quand il retranscrit ça en musique dans ses quatuors à cordes, c'est absolument c'est prodigieux, et on sent une maturation de à la fois de ce qu'il a entendu dans la vie, en quelque sorte, et puis de ce qu'il retranscrit dans sa partition.
C'est tout à fait ça, vous l'avez magnifiquement dit. C'est-à-dire qu'il y a toujours une sorte de, non pas de perfection, parce que la perfection n'existe pas, mais de perfectionnement.
Ouais.
De perfectionnement. C'est-à-dire les choses évoluent, il les fait évoluer devant nous, toujours évidemment vers le bien, vers le haut. Et comme vous dites, il y a souvent des moments extrêmement de grand bonheur dans sa musique, et tout à coup, il y a un accord, qui fait une rupture. Je prends par exemple dans la sonate Appassionata, c'est un accord célèbre, quand subitement, cette atmosphère de cet andante qui est dans la paix, dans un certain bonheur, s'arrête subitement et le drame revient.
Oui.
C'est-à-dire rien n'était gagné, et il montre dans sa musique que les éléments avaient toujours raison de nous, et que nous devions nous adapter finalement à cette puissance surhumaine du cosmos. Il y a un côté très spatial dans cette musique, je trouve,
très humaine,
très universel, et profondément humaine, bien sûr.
Alors Pierre Réac, si vous autorisez, on va faire non pas une pause dans notre discours, mais une pause musicale, ça me paraît nécessaire. Mmh. Alors, pour ma part, j'avais choisi de faire entendre aux auditeurs un extrait de la sonate opus 27, numéro 1, je souhaitais leur faire entendre l'Allegro molto, suivi immédiatement de l'Adagio con espressione. Êtes-vous d'accord avec ce... changer ce choix.
Non, bien sûr.
Alors, si vous le voulez bien, vous restez bien en ligne. Nous ne parlons plus pendant 4 minutes, pendant 5 minutes à peu près. Nous écoutons pour les auditeurs, et puis nous reprenons ce discours.
Très bien, je reste là.
J'ai 1000 autres questions à vous poser, et puis il faut présenter aussi votre festival Piano Pic, qui va la 29e édition, comme nous l'avons promis aux auditeurs. Nous écoutons donc Pierre Réac dans ce dernier, dans ce quatrième volume des sonates, de l'intégrale des sonates de Beethoven. Paru chez Anima, c'est un très beau coffret, musicalement, chers auditeurs, préparez-vous à quelques émotions.
Thank you.
Chers auditeurs, vous écoutez le Libre Journal de la Musique et de la Culture dirigé par Didier Rochard, qui reçoit aujourd'hui le pianiste Pierre Réac à l'occasion de son intégrale des sonates de Beethoven et de son festival de Piano Pic pour la 29e édition.
Alors, Pierre Réac, vous êtes toujours là, j'espère.
Oui, bien sûr, oui.
Merci, voilà. Alors, j'ai choisi ce dernier extrait, l'Adagio, parce que nous restons évidemment en suspens dans une tonalité qui va très très bien à Beethoven, je trouve. Et puisque c'est un disque, il y a dans cette prise de son une clarté absolument extraordinaire. Vous avez enregistré, je crois, à Barcelone.
Oui, près de Barcelone, dans un endroit qui s'appelle Villa Seca, où j'avais créé dans le temps un festival où des grands artistes, dont justement Paul Badoraskola, que je citais tout à l'heure, et de plein d'autres. Et c'est dans ça s'appelle l'Auditori de Josep Carrera. C'est une grande salle de concert tout en bois avec une acoustique merveilleuse. Mmh. Et ils ont eu la gentillesse de me mettre, pour les quatre sessions, c'est-à-dire les quatre coffrets depuis donc 2020, la salle à disposition. Généreusement pour faire cet enregistrement. Donc je leur dois vraiment une grande reconnaissance et c'est là où donc cet enregistrement a eu lieu.
Et vous
depuis la première note jusqu'à la dernière, enfin les 32 sonates, les 4 sessions d'enregistrement.
Et ça c'est déjà extraordinaire parce que ça permet de faire véritablement une véritable synthèse, en quelque sorte.
Et alors là, l'autre chance, évidemment, c'était Étienne Collard. Parce que Étienne Collard, on ne le présente plus, c'est un des grands preneurs de son. Il a fait une carrière absolument phénoménale. Il a enregistré tous les grands de ce monde pour plein de labels prestigieux. Et j'ai eu beaucoup de chance de l'avoir. Et on est devenus des amis, d'ailleurs. Et il m'a accompagné en faisant cette prise de son magnifique. Et qui a d'ailleurs, à mon avis, et il est assez... On n'a pas toujours ça, une sorte de, je dirais, de profondeur dans le sens qui correspond bien pour moi à la sonorité, à l'esprit de Beethoven.
Oui.
La prise de son va dans le sens de ce que nous souhaitons de ce que nous avons souhaité par rapport à la... Parce que c'est tellement important, la sonorité. Elle dépend de beaucoup de choses. Aussi, le lieu, Mais je crois que ça a été bien réussi, de ce côté-là.
Très, très bien réussi, enfin, à l'écoute de ce coffret. C'est vraiment une très grande réussite.
Vous avez d'ailleurs un très beau piano, un Steinway, je pense, que vous mettez merveilleusement en valeur, M. Réac.
Oui, mais vous savez, merci de ce compliment, mais effectivement, on peut faire des compliments au Steinway. Je les cite à la maison Jorquera, qui est la grande maison de piano à Barcelone, et qui m'ont mis également, dans des conditions de grande générosité inoubliable, le plus beau de leur Steinway, avait d'ailleurs été joué par Eugénie Kissin quelques jours avant l'enregistrement, et j'ai eu beaucoup de chance. Donc c'était effectivement un piano magnifique.
Magnifique, oui.
J'étais très inspiré. C'est-à-dire, quand on a la chance d'avoir un piano d'une telle qualité, on est inspiré. On a envie
on est porté.
On est porté, voilà. Tout à fait ça.
Parce que l'instrument... Alors, moi, je ne suis pas pianiste, je ne suis que violoniste. Mais c'est tellement vrai pour le violon, ça, je peux en témoigner.
Oui.
L'instrument a beaucoup de choses à vous rendre.
Oui.
Il est bien évident que l'artiste va s'adapter à un instrument, bon, très bien. Mais une fois que cette adaptation est faite, l'instrument a beaucoup de choses à vous donner.
Ah, oui.
Et il y a une osmose qui se construit, en quelque sorte. Et c'est ce qui donne le résultat de ce magnifique coffret, enfin, etc. Alors, je veux absolument garder un peu de temps, Pierre Réac, pour que vous nous parliez de votre festival qui commence ces jours-ci, puisque...
commence le lundi prochain.
Voilà.
Alors, c'est un festival que j'ai créé en 1997. Comme vous l'avez dit, on fait la 29e édition cette année.
Super.
Avec mon ami le docteur Christophe Baillet, qui est médecin dans les Pyrénées et qui a eu l'idée de créer ce festival parce qu'il connaissait ma passion pour l'astronomie. Et il m'a proposé de faire ça parce qu'on est devant le pic du Midi. C'est aussi pour ça que le festival s'appelle Piano Pic. Et il y avait un événement qui était... assez célèbre, c'était la montée du piano en 1997 par hélicoptère, parce que le téléphérique du Pic du Midi n'était pas encore là, et le piano s'est posé sur la terrasse du Pic du Midi à 2800 mètres, et j'ai joué, et alors TF1, enfin les télévisions étaient venues, et ça a lancé un peu le festival.
Mais je me souviens très bien de ça.
Chaque année, Voilà. Ouais, et alors, chaque année, un peu comme un pèlerinage, on refait la montée au Pic du Midi, mais là, le piano entre dans une benne. Ce n'est pas un queue de concert complet, mais en fait, c'est un demi-queue. Et il entre dans la benne du téléphérique et on a un concert au Pic du Midi à nouveau cette année. Ce sera le pianiste David Lively qui le fera le 15 juillet.
Magnifique.
Sur la terrasse du Pic.
Et alors, j'ai vu que le 10 juillet, François-René Duchâble proposera, en amont du festival, proposera un concert, une animation.
Ben, François-René est d'abord non seulement est un ami très très proche, on a plein d'expériences vécues ensemble, dont notamment la connaissance d'Arthur Rubinstein, parce qu'il a aussi côtoyé Rubinstein, d'ailleurs plus que moi encore, et on a plein de choses. Et alors la première année, quand moi j'avais fait cette histoire sur le Pic du Midi, lui il avait suivi le Tour de France, et il avait posé la bicyclette, il avait joué merveilleusement une polonaise de Chopin, enfin il est un habitué du festival. Et alors comme il voulait être au moment du passage du Tour de France dans la région, on a profité de sa venue. Alors c'était un peu un concert off organisé, un peu hors festival, mais enfin qui amènera certainement la foule, parce que Duchâble est très connu dans la région, et il fera un concert un peu improvisé, malheureusement auquel je ne pourrais pas être, parce que je joue moi-même le ailleurs, mais c'est avant le festival, parce que c'est le 10 juillet, le festival officiel commence le 13.
Voilà,
et la venue de Duchâble, évidemment, c'est un événement, chaque fois.
Alors, ça me fait très plaisir, parce que j'ai eu l'occasion d'accompagner François-René Duchâble dans de nombreuses tournées, et je l'avais, je dois dire, un peu perdu de vue, enfin, etc. Je ne suivais plus suffisamment sa carrière, qui a été prestigieuse, et c'est effectivement un artiste tout à fait extraordinaire,
c'est un grand
humainement
musicien,
parlant et musicalement parlant.
Tout à fait.
Le programme de votre festival est très varié. Vous avez des choses tout à fait intéressantes. On va pas le détailler. Je donnerai tout à l'heure, naturellement, les adresses sur lesquelles les auditeurs peuvent se brancher en quelque sorte pour pouvoir voir tout ça. Lorsqu'on est directeur comme vous-même, directeur artistique d'un festival, comment est-ce que vous parvenez à établir la programmation alors qu'il y a un choix, une diversité artistique absolument considérable?
On a fait avec Christophe Baillet le choix de ne pas donner de thème. Il y a des festivals qui sont à thème.
Oui.
Cette année, c'est un tel compositeur. Cette année, c'est, je ne sais pas, une situation quelconque. Nous, on a des artistes qu'on aime. D'ailleurs, ce n'est pas facile, parce que nous n'avons qu'une quinzaine de concerts et tous les artistes qui sont déjà venus depuis 29 ans veulent revenir. Alors, on ne sait pas comment faire et il faut quand même engager aussi des jeunes et des nouveaux.
Oui.
Mais enfin, on y arrive et il y a les artistes qu'on aime et on leur dit, voilà, évidemment, il ne faut pas de doublons. Mais jouez ce qui vous fait plaisir et dans lequel vous vous sentez le mieux.
Ah oui,
moi, les thèmes, je n'y crois pas tellement. Vous savez, j'ai assisté à des... il y avait un festival César Franck où on jouait tout sauf du César Franck. Je trouve que ça... Oui, ça arrive. Je trouve que les thèmes... De toute façon, ce qui compte dans la musique, pour moi, c'est avant tout la passion. La passion, le désir de partager de tels chefs-d'œuvre avec le public... Alors, ce que nous voulons, c'est que les artistes se sentent heureux et libres, et ils le sont, et ils veulent revenir, parce que c'est ça la grande preuve que le festival marche bien, c'est qu'ils aiment l'endroit, ils aiment le public,
bien sûr.
Et ils s'expriment dans tout l'amour de leur art. Et c'est, moi, je vous dis, vraiment, depuis les années que j'organise ça, j'ai presque autant de plaisir de faire découvrir un artiste que j'aime au public, que jouer moi-même.
Ah oui.
Je trouve que la musique est une chose qui doit tellement être partagée. Quand on a un artiste qu'on aime, on est tellement heureux qu'il vienne et qu'il puisse de le faire découvrir. Parce qu'il y a dans les Pyrénées, il y a aussi des gens qui n'ont pas l'habitude des grands concerts. Et ça, de ce côté-là, on a réussi et je crois que c'est quelque chose de très important.
Oui,
alors évidemment, il y a aussi ceux qui reviennent, que le public a un peu à adopter. Mais c'est une joie, c'est un partage, c'est un immense plaisir d'organiser ça.
Eh bien, écoutez, ça se pressent dans vos interprétations, en fait, cet altruisme à la fois au service des artistes, mais au service de l'œuvre également, comme on l'a découvert dans ce Beethoven. Alors, merci Pierre Réac pour ces quelques moments passés ensemble. Je vous
propose... C'est moi qui vous remercie parce que c'était un... Je sens que vous aimez la musique autant que moi. Et
c'est un bonheur d'échanger avec vous.
C'est un bonheur de parler de choses qu'on aime ensemble. C'est formidable.
Voilà.
Grand merci.
Eh bien, écoutez, alors, dites-nous, vous avez peut-être un prochain concert en région parisienne, puisque la radio est surtout en région parisienne. Vous avez peut-être quelque chose à nous annoncer.
Non, dans la région parisienne, non. Je vais voyager tout l'été. Je vais dans pas mal d'endroits cet été. Et à la rentrée, non, il est question de l'année prochaine d'un concert, mais on le saura pendant l'année Beethoven, justement, oui. En 2027. Mais autrement, non, parce que j'ai fort à faire. En septembre, je dois aller en Chine, parce qu'en Chine, je vous avouerai qu'il y a un autre festival dont je m'occupe artistiquement aussi, à Bailou, que beaucoup de mes amis musiciens connaissent. C'est à côté de Chengdu. Et autrement, il y a évidemment le Festival des Pyrénées qui commence dans quelques jours. Il y a un autre festival aussi où j'assume un peu la direction artistique qui est en Italie, sur l'Adriatique, qui aura lieu fin août. Enfin, il y a beaucoup de projets. Et aussi la rédaction du livre, parce que l'éditeur m'a dit il faut que tout soit bouclé fin septembre pour une sortie début de l'année Beethoven. Alors donc, j'ai dit, beaucoup de travail.
Écoutez voilà. Nous allons vous laisser travailler en vous remerciant infiniment pour ce moment.
Mais c'est moi qui vous remercie pour un moment très, très agréable avec vous.
Et surtout pour vos interprétations. Je le redis aux auditeurs, Beethoven par Pierre Réac, c'est un univers à découvrir. Vous vous régalerez d'une façon, j'allais dire, c'est plus qu'une simple sensation, c'est presque une élévation spirituelle à l'écoute de ces sonates.
C'est un plaisir d'échanger avec vous, Monsieur Réac, vraiment, un grand plaisir.
Merci infiniment à vous deux, ça m'a fait un grand plaisir aussi, vraiment.
Je vous en prie.
Un très bel été.
À bientôt, parce que vous viendrez, si cela vous plaît naturellement. J'aimerais beaucoup que vous nous parliez de votre expérience en Chine, qui me semble très importante. Voilà, prochainement,
très bien.
J'espère.
Et
nous
allons, grand plaisir.
Je vous en prie. Et nous allons nous quitter, provisoirement, si vous le voulez bien, avec la sonate opus 106, le Hammerklavier. C'est le Scherzo que j'ai choisi de faire entendre aux auditeurs, extrait de ce quatrième volume de l'intégrale des sonates de Beethoven par Pierre Réac. C'est une merveille. Nous écoutons. Merci Pierre Réac.
Merci. Thank you.
Face à l'offensive de la gauche pour bâillonner les médias vraiment libres, Radio Courtoisie a plus que jamais besoin de vous pour se renforcer, pour se protéger, pour défendre vos idées. Vous êtes 1,5 million, presque 2 millions à nous écouter, mais vous n'êtes pas encore 20 000 à nous donner. Vos idées valent bien 1 euro. 1 euro pendant l'été, pourquoi pas 1 euro par mois? 1 euro pour garantir vos idées. 1 euro contre la censure. 1 euro pour rester libre. Cet été, aidez Radio Courtoisie à donner de la voix. Faites un don sur soutenir.rc.fr ou envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75016, Paris. Radio Courtoisie, libre et indépendante, grâce à vous.
Grâce à vous, chers auditeurs, libre et indépendante, et il faut que ça continue, par conséquent, aidez Radio Courtoisie, comme on vous l'a dit.
Merci.
Bonjour Mélisande.
Bonjour Mélisande.
Bonjour les garçons. Oh,
quel bonheur.
Vous nous manquiez.
Mais moi aussi. Bon. Qu'est-ce que c'était bien quand on était là chaque semaine.
Mélisande va nous le redire, c'est ouais. Bien. Voilà, tout à fait. Alors Mélisande, aujourd'hui, deuxième épisode de Samson François. Samson François qui a beaucoup frappé des auditeurs qui m'ont informé de leur bonheur d'avoir entendu Samson François. La dernière fois que nous avions fait, parce que ça, ça a déjà été fait, mais c'était en 2022, figurez-vous. Ah, et j'ai retrouvé ma fiche. Dans mon incendie, si je puis dire. C'est quand même, on a des choses comme ça qu'on retrouve tout à fait. Alors, elle a connu le feu, l'eau, enfin, etc., tout ce qu'on peut imaginer.
Oui.
Mais j'ai retrouvé un bout de papier où j'avais marqué les œuvres que nous avions diffusées pendant cet épisode de Raconte-moi la musique, Samson François. Chers auditeurs, c'est aujourd'hui. Et alors,
c'est le deuxième épisode. Mais je voudrais quand même rappeler aux auditeurs ce qui s'est passé au premier épisode, parce que comme on se voit moins souvent, alors donc, il arrive à Paris, là, il a été remarqué par Alfred Cortot, il a auditionné à Nice, et il monte à Paris, comme on dit, et il va commencer ses études musicales à Paris.
Raconte-moi la musique, Mélisande Chauveau, Samson François.
Paris représentait un tel prestige que je pensais rencontrer Chopin au coin de la rue, Liszt à l'autre bout, Baudelaire dans un café et Verlaine quelque part. Tous ces génies qui me bouleversaient. J'ai commencé à aimer Baudelaire par « Dis-moi, ton cœur parfois s'envole-t-il, Agathe ?» Pour Chopin, ce fut le premier mouvement de la sonate funèbre. Soudain, le ciel au-dessus de moi ou au-dedans de moi s'ouvrit. Une pure lumière se mit à pleuvoir. Depuis ce miracle, je n'ai cessé de croire en Chopin. J'arrivais à Paris, j'avais 11 ans. Très vite, grâce à la banque, nous trouvâmes un petit logement rue de Tocqueville, à 2 pas de l'école normale où, dès le mois d'octobre, je faisais mon entrée sous l'aile de Cortot, que je ne pouvais m'empêcher de surnommer le dernier des Mohicans. Le maître me confia à Yvonne Lefébure. Le premier contact eut lieu dans l'atelier de l'impasse Ronsin où la pianiste donnait ses cours. J'arrivais accompagnée de mes parents et jouais la 11e rhapsodie de Liszt, version plus qu'étonnante, pas du tout comme l'aurait fait un enfant de 11 ans, même doué. Je jouais avec un tempérament d'adulte, une fougue d'adulte et surtout un souffle d'une spontanéité inouïe. Cela étant, tout était bousculé, boulé, le rythme oscillait tant et plus. Madame Lefébure, une fois remise de sa surprise, m'indiqua qu'il serait bon de faire le nettoyage dans ce jeu désordonné. Alors je la regardais bien en face et lançais « Oui, je vois, il faut tout revoir de fond en comble ». Thank you. Septembre 1935, j'arrivais à Paris en trêve à l'école normale où, sous la houlette d'Yvonne Lefébure et d'Alfred Cortot, je commençais mon grand ménage. « Il est très difficile à mener, disait Cortot. Je n'arrive à le faire jouer qu'en suscitant des images. Imprévisibles, secrets, tourmentés. J'ai vite fait d'être considéré par mes condisciples comme, je cite, le Van Gogh du piano. » Celui qui projetait des couleurs avec les sons. À l'école, je suivais aussi les cours de Nadia Boulanger, qui se souviendra. La première fois que j'ai vu Samson, je ne savais pas ce qu'il deviendrait, mais je savais qu'il deviendrait quelqu'un. C'est dans sa classe que je me liais d'amitié avec Pierre Petit, que d'emblée je fascinais. Tu es comme un petit monstre surdoué venu d'une autre planète, répétait-il. C'est vrai, j'étais différent. Je ne jouais pas non plus comme un enfant. Je me concentrais à l'extrême et faisais abstraction de tout ce qui m'entourait. Je ne parlais pas comme un enfant et, n'en déplaise à ma modestie, mon intelligence forcenée était déconcertante. Je ne lisais pas comme un enfant, ni surtout ce que lisent les enfants. C'est curieux tout de même, car parvenu à l'âge adulte, je refuserais de quitter l'enfance et surprendrais par ses réactions de gamin que j'aurais toute ma vie. Seule ma curiosité resterait toujours en éveil, ainsi que ma fabuleuse mémoire à engranger avec une stupéfiante facilité. Enfant secret, je ne me livrais pas, et avais une manière bien à moi de refuser de me raconter. Mes camarades, instinctivement, sentaient qu'il ne fallait pas insister. « Attention, chuchotait-il, attention, Van Gogh, terrain miné !» Je souffrais beaucoup des conditions de vie précaires dans lesquelles nous vivions. Mes parents n'arrivaient pas à joindre les deux bouts et mon père, faisant feu de tout bois, tentait d'intéresser toutes sortes de personnes et d'administrations à mon talent, allant même jusqu'à écrire au président de la République pour lui demander son appui. Ces requêtes restaient sans réponse ou au mieux se heurtaient à des refus polis, bien sûr. Il y avait dans ces démarches quelque chose de pathétique, quelque chose d'un peu gênant. Il me semblait qu'il fallait à tout prix profiter de mes dons et en retirer des bénéfices avant que les années passant, je ne sois plus considéré comme un enfant prodige. Je n'eus pas le temps de m'interroger longtemps. Le 30 décembre 1936, mon père mourait, foudroyé par une angine de poitrine. Désormais seul, ma mère et moi étions au bord du gouffre. Notre situation financière était absolument insoluble et c'est bien grâce au Crédit Lyonnais que nous ne sommes pas morts de faim. Avec une générosité et une constance remarquables, la banque régla chaque mois notre loyer, m'organisa des concerts privés, sans prolongement tangible, hélas, et ce, jusqu'à la guerre. Après 2 années passées à l'école normale, j'obtenais ma licence de concert en 1937. Cortot avait été une révélation pour moi. Prestige du grand pianiste, prestige dans le sens de la magie, du mystère. Je venais d'avoir 13 ans. Pour survivre, ma mère donnait des cours d'allemand. Sans arrêt absente, elle n'avait plus le temps de s'occuper de moi. Je me sentais abandonnée et ses absences pouvaient durer des jours. Je ne savais jamais où elle était. Enfant naguère soignée, J'étais devenu un adolescent mal fagoté, sale, avec des cheveux longs et gras, livré à moi-même. Je traînais souvent du côté de la rue Saint-Denis. En me baladant un soir, j'ai rencontré une prostituée, chic fille, une dame au grand cœur, érudite de surcroît, puisqu'elle m'a pris le grec. C'est avec elle que j'ai commencé ma vie d'homme. C'était une période difficile, trouble. Mon orgueil souffrait beaucoup de notre condition de pauvre. J'avais honte, et cela me marqua profondément. Cette situation de dénuement n'expliquerait-elle pas les rapports extravagants que j'aurais plus tard avec l'argent? Alors à cette époque, je disais souvent à mes camarades « Ma mère me laisse de temps en temps de l'argent sur la cuisinière, alors je cours le dépenser. L'argent me brûle les doigts. L'argent me brûlera toujours les doigts. L'argent que je ne ferai jamais compter prendra une telle importance dans mon existence qu'il influera sur mon comportement et par voie de conséquence sur ma carrière même. Plus tard, mon besoin de dépenser me conduira aux plus tristes expédients, mais pour l'heure. » En dehors de mon piano, de ma maîtresse et des rapports épisodiques avec ma mère, je lisais. Je lisais, fascinée par la littérature française, par la littérature fantastique. Je connaissais toute l'œuvre d'Edgar Poe par cœur. Déjà à cette époque, je n'étais plus scolarisée et en parfait autodidacte, ne devais mes connaissances et ma culture qu'à mes lectures. J'avais 13 ans et j'écrivais des vers. En mineur, bien sûr. Paris un square. Je vais m'asseoir sur un banc triste que de pierre assiste. De pauvres enfants jouent en silence tandis que les mamans parlent en cadence. Puis elles reprennent leurs mornes coutures ou bien les mènent aux confitures. Quelquefois paraît à l'orée du sentier un vieillard altier ou une femme navrée tenant un bébé qui, fragile et maigre, par le temps aigre et la faim est frappé. Immédiatement, tous les bourgeois écartent leur enfant du rabat-joie. Écœuré par ces manèges, je m'en vais désolé, me demandant quel sortilège rendit ces gens si mauvais. Thank you. 1938. Un jour d'errance, mes pas me conduisirent au Quartier Latin. J'y rencontrai Louis Ripoll, un étudiant en droit originaire d'Alger, de 7 ans mon aîné, avec qui je me liais d'amitié. J'étais subjuguée par cet adolescent étrange, se souviendra mon ami. Quant à moi, d'emblée, je vois à mon aîné une admiration éperdue, allant jusqu'à façonner mon écriture en imitant la sienne, amitié jalouse, exclusive. Devenu inséparable, Louis, passionné de musique, fera installer un piano dans sa chambre pour qu'à mon gré je puisse y travailler, y composer, y improviser. Puis, les grandes vacances venues, il m'emmènera avec lui à Alger et me fera découvrir son pays d'où, émerveillée et couverte de bosses, je rentrerai à Paris. Voyez-vous, en faisant du vélo, je m'étais aplati contre un mur et c'est avec des pansements sur les mains, mais aussi sur les yeux, qu'à mon retour, je jouais pour la première fois devant Marguerite Long. Je préparais le concours d'entrée au conservatoire. Cortot avait décrété que Marguerite Long serait la plus à même de me discipliner. Madame Long, comme l'appelaient officiellement ses élèves, il y avait en privé des surnoms moins respectueux, n'avait pas la réputation d'être une tendre, et avec elle, les états d'âme n'existaient pas. On racontait qu'un jour, se plaignant à Roger Ducasse d'avoir des battements de cœur, ce dernier lui aurait répondu « Cher ami, on ne se plaint pas d'un organe que l'on n'a pas. » Le 22 novembre 1938, j'étais admis dans sa classe et déjà me heurtais à sa main de fer. Et l'expression n'est pas seulement figurée puisqu'elle me battait. Il m'a littéralement menée à mon prix à coups de gifle. D'ailleurs, elle le reconnaîtra elle-même et avouera « Sanson, vous avez été le seul élève que j'ai jamais battu. » Ce à quoi je répliquais « Oh, mais madame, c'est un privilège, puisque j'étais le seul. » Lorsque j'entrais au conservatoire, j'avais encore une apparence de très petit garçon avec mes culottes courtes et mes chaussettes blanches, du moins supposées comme telles, en tire-bouchon sur mes chevilles, sans parler de ma longue mèche blonde qui me masquait la moitié du visage. Plus encore que les gifles, il y avait les répliques cinglantes de Madame Long, ces répliques dont elle avait l'art et qui me mettaient dans un état épouvantable. Ainsi, un simple « Sanson, ce morceau n'est pas su » me blessait-il au plus profond de mon orgueil. Pourtant, dans ces cas-là, je ne l'avais pas volé. J'avais, c'est vrai, une oreille et une mémoire stupéfiante, quand je voulais bien me concentrer, bien sûr. Mais j'étais anarchique et Madame Long aimait l'ordre. Et puis je faisais tout pour la mettre hors d'elle. Ainsi, je ne travaillais jamais les œuvres qu'elle m'indiquait, mais lui en apportait toujours d'autres. Je faisais exprès de traîner dans les couloirs pour arriver systématiquement en retard à ses cours. Pis encore. Je séchais les examens de classe tout en m'arrangeant pour qu'elle sache que j'étais bien dans la maison et quand, furieuse, elle me demandait de lui expliquer mes absences, je me bornais à répondre, désarmant de naturel. Je n'étais pas inspirée ce jour-là. Printemps 1940, l'invasion de la France bouleverse la fin de l'année scolaire. Le 4 juin, dans l'atmosphère enfiévrée et d'un Paris qui se vide précipitamment avant l'approche menaçante de l'armée allemande, l'examen pour l'admission à concourir pour les prix a bien lieu. Je suis admis à l'unanimité, mais la débâcle s'accélère. Et 10 jours plus tard, Paris est occupé. Le concours est remis. À peine l'armistice est signé, une certaine forme de vie reprend. Le mardi 8 octobre à 9h du matin, 36 candidats s'affrontent. Je décroche un premier prix, 11 voix sur 12. J'ai fait une forte impression et dans ce Paris qui s'enfonce dans son premier hiver d'occupation, de ténèbres et de pénuries, on parle beaucoup de ce jeune virtuose de 16 ans à la mèche tombante qui répond au curieux nom de Samson et qui, dit-on, a du génie. Je quittais le conservatoire, dernier premier prix qu'aurait un élève de Madame Long. Cette dernière venait de démissionner parce qu'elle était à quelques mois de la retraite, alors fixée à 68 ans, et qu'elle ne voulait surtout pas que l'on connaisse son âge. Ce qui me permettra de lui dire « Nous sommes sortis ensemble du conservatoire ».
Merci Mélisande pour cette pittoresque jeunesse donc de Samson François. Et chers auditeurs, vous bénéficierez du troisième épisode à la prochaine émission.
4 août,
le
vite,
4
le 4
août prochain.
Vite, vite.
Voilà. Chers auditeurs, merci de votre attention. Merci,
merci
pour le message que nous avons reçu.
Oui,
merci
de cet auditeur. Merci
et
beaucoup.
Et puis, le 4 août, l'émission sera partiellement en direct.
Nous serons sans vous, Didier. Nous serons bien tristes.
Et exactement, je vous raconterai ce que je suis parti faire. Voilà. À bientôt, chers amis.
Merci, Mélisande.
Merci.
À bientôt.
Au revoir. À bientôt, chers amis.
Vous venez d'entendre le Libre Journal de la Musique et de la Culture dirigé par Didier Rochard, assisté d'Éric, diffusé en direct sur Radio Courtoisie, mardi 7 juillet 2026, de midi à 13h30 et réalisé par Benoît. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre, rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez le CD-ROM pour le prix front de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.